Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado de la Revue de droit d'Ottawa. Je m'appelle Mariam et aujourd'hui, je suis avec ma collègue Océane, rédactrice associée à la RDO. Salut Océane!
Salut Mariam, je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui et salut tout le monde! Bienvenue dans ce nouvel épisode, assez spécial d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer aux mythes autour du droit. Pour préparer cet épisode, on a fait le tour du web, on a discuté avec nos proches et on vous a déniché les mythes qui reviennent le plus souvent. Alors Mariam et nos chers auditeurs, êtes-vous prêts et prêtes à démêler le vrai du faux?
Oui, absolument.
Bon, le premier mythe, je pense qu'il va plaire à tous nos mordus de films et de séries. Tu vois, Mariam, dans les séries ou les films qui parlent de droit, comme par exemple Suits ou même How to Get Away with Murder?
Oui.
On voit souvent un ou une juriste qui va faire appel à un témoin surprise qui va, disons, sortir un peu de nulle part pour tenter de déstabiliser la partie adverse.
Ah oui, le témoin surprise.
Oui. En réalité, beaucoup de gens croient que ça se passe réellement comme ça au tribunal.
Quoi? Ça se passe comment alors?
En fait, dans la vraie vie, chaque partie doit divulguer à l'avance la liste de ses témoins à l'autre partie. C'est une règle fondamentale, autant en matière civile qu'en matière criminelle. Elle sert à garantir un procès équitable à la personne accusée.
Et pour les témoins experts, il me semble que ça serait encore plus encadré, non?
Exactement. Par exemple, en droit criminel, l'article 657.3, alinéa 3 du Code criminel exige qu'une partie qui souhaite faire entendre un ou une témoin experte communique à l'avance à l'autre partie, au moins 30 jours à peu près avant le procès. Celui-ci doit divulguer, entre autres, le nom, le domaine de compétence et d'autres détails de cette personne.
Donc, si quelqu'un arrive avec son témoin sorti de nulle part, la cour ne serait pas impressionnée, n'est-ce pas?
Oui, c'est exact. Et heureusement, imagine le chaos qui va être créé si tout le monde pouvait appeler un ou une témoin à n'importe quel moment. Bon, Mariam, je pense que c'est à toi de nous présenter le prochain mythe.
Alors, un autre mythe qu'on entend tout le temps, c'est qu'en droit de la famille, les juges donnent toujours raison à la mère. Et honnêtement, c'est complètement faux. Les tribunaux ne partent jamais avec l'idée qu'un parent a un avantage. Tout tourne autour d'un seul principe. L'intérêt supérieur de l'enfant.
J'ai une question pour toi alors. Comment est-ce que les tribunaux vont déterminer ce qui est dans l'intérêt d'un enfant?
Ok. Pour expliquer ça, je vais te ramener à une décision super importante de 1996. Gordon contre Courts. C'est une affaire où les parents étaient séparés. La mère voulait déménager en Australie avec sa fille et le père s'y opposait. L'affaire s'est rendue jusqu'à la Cour suprême qui a établi un test très clair. En gros, le juge doit suivre deux étapes. Premièrement, dans les situations de déménagement, d'abord, il faut vérifier s'il y a eu un changement important dans la situation de l'enfant. Ensuite, si oui, il faut réévaluer complètement l'intérêt supérieur de l'enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes sans présumer que la mère ou le père a un avantage naturel. Et ce qui est super important, c'est que la Cour dit clairement l'accent est mis sur l'enfant, pas sur les droits ou préférences des parents.
Donc, si je comprends bien, ça vient déjà casser le mythe.
Exactement. Et pour être plus concrète, quand un juge analyse l'intérêt supérieur, il regarde des facteurs très précis qui sont aujourd'hui codifiés à l'article 16 de la loi sur le divorce. Par exemple, la sécurité de l'enfant, sa stabilité et la continuité de son environnement, ses relations importantes et d'autres choses. Tout ça, ce sont des critères concrets, objectifs, pas des stéréotypes.
Oui, et il me semble que la Cour suprême a réaffirmé ce principe, non?
Oui, récemment en fait. Mais attention, j'ai une difficulté avec la prononciation de cette prochaine décision. C'était Bardenguet contre Grablinos en 2022. Dans cette affaire, la mère voulait déménager dans une autre province et le père disait que ça nuirait à la stabilité des enfants. La Cour suprême a donc appliqué le cadre de Gordon, mais en tenant compte des réformes de 2021 à la loi sur le divorce. Et elle a réaffirmé que la seule vraie question, c'est est-ce que ce déménagement sert réellement l'intérêt supérieur de ces enfants-là dans leur situation précise. Après avoir analysé toute la preuve, la Cour a conclu que le déménagement servait effectivement l'intérêt supérieur des enfants et l'a donc permis. Et ce qui ressort vraiment de cette décision, c'est que chaque situation familiale est unique et il n'existe aucune formule automatique ou présomption en faveur d'un parent ou de l'autre. Tout dépend des faits très concrets.
Ah, ok, je comprends mieux maintenant. Donc, si j'ai bien saisi tout ce que tu viens de dire là, ce n'est jamais vraiment une question de choisir un parent plutôt qu'un autre.
Non, le droit met vraiment l'enfant au centre, pas les parents. Et je trouve ça beau, honnêtement. Ça coupe complètement avec les vieux stéréotypes.
Merci, Mariam, pour ce beau mythe. Bon, le prochain que j'ai envie de partager avec toi et le public concerne les principes de détermination de la peine. Est-ce que tu peux deviner lequel?
Je vais tenter une réponse complètement au hasard. Est-ce que c'est le principe qui veut que la peine de la personne accusée soit adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction?
C'est proche, mais c'est pas tout à fait ça. Le mythe dont je parle, c'est celui selon lequel les principes gladus entraînent automatiquement une réduction de peine pour les personnes autochtones.
Ah oui, celui-là, j'en ai déjà entendu parler.
Oui, c'en est un qui est très répandu malheureusement. Mais avant même de démystifier ce mythe, je veux prendre un court moment pour vous expliquer ce que sont les principes gladus pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le droit.
Bonne idée!
Les principes gladus découlent d'un arrêt important de la Cour suprême du Canada. L'affaire concerne une jeune femme Cree qui, en 1995, poignarde son conjoint et plaide coupable à une accusation d'homicide involontaire. Comme elle ne vivait pas sur une réserve au moment des faits, le juge de première instance avait estimé que l'alinéa 718.2e du Code criminel ne s'appliquait pas à son cas. L'affaire s'est alors rendue jusqu'à la Cour suprême qui a clairement établi que les juges ne peuvent pas ignorer l'identité autochtone d'un contrevenant ou d'une contrevenante en se fondant sur son lieu de résidence. L'alinéa 718.2e prévoit que le tribunal doit examiner notamment pour les délinquants ou délinquantes autochtones toutes les sanctions substitutives raisonnables qui tiennent compte du tort causé aux victimes ou à la collectivité. Il s'agit d'une approche qui est axée sur une justice réparatrice qui vise à restaurer un certain équilibre entre le délinquant, la victime et la collectivité tout en contribuant à la prévention de nouvelles infractions. Il ne s'agit ici que d'un résumé, mais je vous encourage vraiment à lire la décision complète pour comprendre toute la portée.
Moi, je ne comprends pas trop le mythe. Alors, dans ce que tu viens de dire, je vois plutôt une approche qui reconnaît que des facteurs historiques, comme les effets des pensionnats, qui peuvent influencer le parcours d'une personne autochtone et qu'il est important d'en tenir compte dans la détermination de la peine.
Voilà, je pense pareil comme toi. Il faut savoir qu'au Canada, les personnes autochtones sont fortement surreprésentées dans le milieu carcéral. Cette surreprésentation s'explique entre autres par le colonialisme ou par les traumatismes intergénérationnels engendrés par le système des pensionnats. Je vais brièvement revenir à l'arrêt gladus et vous parler de deux paragraphes où la Cour suprême en tirait deux éléments importants. Au paragraphe 79, elle indique que, je cite, « Dans certaines circonstances, la durée de la peine infligée à un délinquant autochtone pourra être inférieure à celle de tout autre délinquant, alors que dans d'autres, elle pourra être identique. » Et au paragraphe 88, elle poursuit en ajoutant que l'alinéa 718.2e ne doit pas être interprété comme exigeant une réduction automatique de la peine ou la remise d'une période justifiée d'incarcération pour la simple raison que le délinquant est autochtone.
Donc, s'il y a une chose qu'on doit retenir, ce n'est pas une peine plus clémente, mais une exigence pour rendre le système plus équitable dans le sens de l'égalité réelle.
Exactement. On passe au prochain mythe?
Oui. Alors, celui-là, je l'ai tellement vu passer. Si tu te défends, tu risques d'être accusé d'agression. C'est parti d'une histoire qui a beaucoup circulé. Un homme a été arrêté après une altercation avec un intrus. Parce que ce dernier avait subi des blessures. Et là, plein de gens paniquaient. Donc, si je me défends, je peux être accusé?
Oui, effectivement, ça fait beaucoup réfléchir. Mais rassure-nous, est-ce que c'est vrai?
Non, pas du tout. Le Code criminel, à l'article 34, prévoit clairement la légitime défense. En gros, tu n'es pas coupable si trois conditions sont réunies. Premièrement, tu crois pour des raisons raisonnables qu'une force est utilisée ou menacée contre toi. Deuxièmement, ton acte est fait pour te défendre. Et troisièmement, ta réaction est raisonnable dans les circonstances. Et l'alinéa 34.2 donne même des facteurs pour évaluer ça. La nature de la menace, les options que tu avais et si ta réaction était proportionnelle.
Donc, on peut se défendre, mais seulement si la réaction est raisonnable, c'est bien ça?
Exactement. Et la Cour suprême a clarifié ça dans sa décision contre Kiel en 2021. Dans ce cas-là, un homme a réagi très rapidement en tirant sur un intrus sans avertissement et sans appeler à la police. Le jury l'avait acquitté, mais la Cour suprême a ordonné un nouveau procès parce que le juge n'avait pas assez insisté sur un élément essentiel. Même si tu as peur, ta réaction doit être raisonnable pour une personne ordinaire dans la même situation. Autrement dit, la légitime défense n'est pas seulement une question de perception personnelle. La loi impose aussi un critère d'objectivité. On évalue ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les mêmes circonstances. Donc oui, tu peux te défendre, mais pas justifier n'importe quoi.
Ah ok, j'ai juste une petite question. Est-ce que la légitime défense se limite aux agressions physiques?
Pas vraiment. En fait, par exemple, dans la décision de la Couronne contre Lavallée, la Cour suprême a reconnu qu'une personne victime de violences conjugales peut se défendre même si le danger n'est pas immédiat dans un sens classique. Dans ce cas-là, la menace était surtout psychologique et continue, alimentée par des années d'abus. La Cour a expliqué que la peur peut être raisonnable même sans attaque physique instantanée, parce qu'elle découle d'un cycle de violence et d'une menace bien réelle. Donc, la légitime défense tient compte du contexte et de la dynamique psychologique, pas seulement d'un moment précis.
Donc, si on résume, oui, on a le droit de se défendre, mais ça doit être raisonnable, proportionné et lié à une menace réelle.
C'est exactement ça, Océane. Le Canada reconnaît pleinement la légitime défense, mais elle n'est pas automatique. La légitime défense existe bel et bien, mais tout dépend du contexte et de la raisonnabilité. Maintenant que ça c'est clair, Océane, c'est quoi le prochain mythe qu'on va démystifier?
Comme c'est le dernier mythe, je vais te mettre, toi et les auditeurs, dans deux petites situations de fait.
Oh, j'ai peur de voir où tu vas aller.
Ne t'inquiète pas, c'est assez simple. Première situation. Tu as une grosse chicane avec ton voisin, il te menace et tu te sens en danger. Pourrais-tu invoquer l'article 7 de la Charte?
Si je me souviens bien de mon cours de constitution, l'article 7 concerne le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de ma personne, non?
Oui, exactement.
Alors non, je ne pourrais pas, à moins que mon voisin soit l'État.
Bien joué! Deuxième situation. Tu rentres dans un Walmart et l'employé au comptoir refuse ou est incapable de te servir en français. Là encore, tu dis « c'est une violation de mes droits garantis à la charte ».
Encore une fois, non, je ne pourrais pas. Je crois que je connais ce dernier mythe.
Ok, vas-y.
Il concerne la question de contre qui on peut invoquer la charte, non?
Bingo! Tu vois, c'était facile. Je voulais simplement clarifier le mythe qui dit que la charte s'applique aux interactions privées.
Ah oui, et ça se trouve au paragraphe 32.1, n'est-ce pas?
Oui, c'est exact. Tu t'y connais bien en droit constitutionnel. Tu sais, je viens de me rendre compte qu'on n'a même pas expliqué ce que c'est la charte pour ceux et celles qui ne la connaissent pas vraiment.
Ah oui, bonne idée en fait.
Alors, pour replacer un peu les choses. La Charte canadienne des droits et libertés fait partie de la Constitution du Canada. Elle protège les droits fondamentaux de toute personne, comme la liberté d'expression à l'alinéa 2b, le droit à l'égalité à l'article 15, ou encore le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité à l'article 7, comme nous l'avons mentionné avant.
Et là, la grande question qu'on se pose tout à l'heure, est-ce que la Charte s'applique aussi aux relations privées?
La réponse est au paragraphe 32.1 de la charte. Je vais vous la lire. Il dispose que la présente charte s'applique au Parlement et au gouvernement du Canada pour tous les domaines relevant du Parlement, y compris ceux qui concernent le territoire du Yukon et les territoires du Nord-Ouest, ainsi qu'à la législature et au gouvernement de chaque province, pour tous les domaines relevant de cette législature. En gros, la charte s'applique seulement au gouvernement, que ce soit le gouvernement fédéral ou les gouvernements provinciaux. Autrement dit, on peut s'en servir pour se défendre quand l'État viole nos droits, mais pas dans un conflit entre deux personnes ou entre entreprises privées. Voilà, ça conclut les mythes que nous avions aujourd'hui.
Merci, c'était vraiment intéressant. Et merci à vous, nos auditeurs, d'avoir été à l'écoute. On espère que cet épisode vous a aidé à démêler le vrai du faux autour du droit. On vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
Bye!